Laudetur Jesus Christus.
Quand la presse internationale applaudit le pape, 4 jours après son élection, Léon XIV a appelé 3000 journalistes à désarmer la terre avec une communication désarmée, plaidant également pour la libération de leurs confrères détenus. Premier entretien téléphonique du pape avec un chef d'État, au moins aux yeux du monde, celui passé avec le président ukrainien ce lundi. Volodymyr Zelensky a invité Léon XIV en Ukraine. Nous entendrons le président des évêques latins du pays. Le élu souhaite une paix désarmée à tous en Turquie. Le parti des travailleurs du Kurdistan promet ce lundi de déposer les armes, l'espoir peut-être d'une résolution pacifique de la question kurde en Turquie. Puis enfin, qui était Léon XIV avant d'être pape? Témoignage dans ce journal d'un évêque qu'il a accueilli à Cuba en 2008.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Le monde entier avait les yeux braqués sur Rome. Ces derniers jours, plus de 6000 journalistes venant de 90 pays ont assuré la couverture du conclave puis l'élection du 266e successeur de Pierre. 4 jours après la fumée blanche, 3000 d'entre eux ont été accueillis par Léon XIV ce lundi lors de sa première audience en salle Paul VI. En aparté, le pape a confirmé de manière informelle à certains d'entre eux qu'il envisageait un voyage à Nicée pour les 1700 ans du concile, mais pas aux États-Unis. Il a signé toutefois une balle de baseball et bénit des enfants, mais ça, c'était après son adresse générale, le compte-rendu de Marie Norio.
Souriant, presque timide sous les applaudissements des journalistes, Léon XIV a d'abord pris le temps de les saluer avant de leur lancer plusieurs invitations. D'abord, s'engager à poursuivre une communication différente, a-t-il dit, sans agressivité, car la paix commence déjà par là.
La pace comincia da ognuno di noi. Dal modo in cui guardiamo gli altri.
La paix commence avec chacun de nous, dit Léon XIV, avec la façon dont nous regardons les autres, dont nous les écoutons. La façon dont nous communiquons est d'une importance fondamentale. Nous devons dire non à la guerre des mots et des images. Le pape, qui par ailleurs invite les journalistes à sortir de leur tour de Babel, à éviter les langages idéologiques ou sectaires et à endosser leurs responsabilités.
Viviamo tempi difficili da percorrere.
Nous vivons des temps difficiles qui représentent un défi. Il ne faut jamais céder à la médiocrité, a-t-il ajouté. Un discours avec des conseils, mais aussi avec des remerciements à la foule de journalistes fatigués. Remerciements pour le travail réalisé pour la couverture du conclave et des funérailles. Enfin, autre point fort ce matin, Léon XIV a rappelé le bien précieux qu'est la liberté d'expression et a appelé à la libération des journalistes emprisonnés dans le monde, suscitant une salve d'applaudissements.
Tante grazie.
Et actuellement, 55 journalistes sont pris en otage en Syrie, en Irak ou encore au Mali. 532 ont été mis derrière les barreaux, selon Reporters sans frontières, emprisonnés en raison de leurs activités professionnelles, principalement en Chine, en Birmanie et en Russie. Et parmi eux, il y a ceux qui ne s'en sortent pas vivants. C'est le cas de la journaliste Viktoria Rotchina, une journaliste ukrainienne de 27 ans, enlevée en août 2023 près de la ligne de front et dont on a appris la mort en détention en septembre dernier. Un destin tragique qu'avait évoqué le pape François et le président Zelensky en octobre dernier, lors de leur dernier échange à Rome. Le corps mutilé de la jeune femme a été depuis restitué par la Russie à l'Ukraine. Que tous les prisonniers soient libérés, que les enfants retournent de leur famille, c'est ce que lançait hier le pape Léon XIV à l'issue du Regina Coeli dans les pas de François. Le pape américain assurait porter dans son cœur la souffrance du peuple ukrainien. Bien aimé, a-t-il dit, et preuve en est. Le premier appel téléphonique du pape élu avec un chef d'État fut ce lundi accordé à Volodymyr Zelensky. On écoute la réaction du président de la conférence des évêques latins d'Ukraine, Monseigneur Vitali Skomarovski.
On n'attendait pas simplement l'élection du nouveau pape, mais on priait beaucoup pour toute notre Église, pour tout le peuple. Le fait même de l'élection a été perçu comme une réponse à notre prière. Tout le monde était très heureux. Et le fait que le Saint-Père ait mentionné l'Ukraine, la guerre, les souffrances du peuple ukrainien dès le début montre qu'il est bien informé. Dimanche, en fait, il a également parlé de ces choses qui sont douloureuses, en particulier le retour des prisonniers et des enfants déportés, des dossiers sur lesquels le Saint-Siège a beaucoup aidé. Il est donc clair qu'il dispose de ces informations. Son soutien pour une paix véritable, juste et durable est très important pour nous. Je n'ai jamais douté que le pape, quel qu'il soit, continuera à soutenir l'Ukraine, car il s'agit d'un soutien à la paix, à la fin de la guerre. Et c'est ce que nous espérons. Par ailleurs, notre président a parlé au pape et l'a invité en Ukraine. C'est une autre raison pour laquelle nous espérons encore plus la paix, afin que cette visite puisse avoir lieu. Bien sûr, le pape pourrait venir maintenant, mais dans ces conditions, il n'est pas possible d'effectuer une visite pastorale au sens plein du terme. Nous espérons espérons donc que la guerre prendra fin, qu'il pourra venir en Ukraine et que nous pourrons nous réjouir avec lui de ce don de la paix que nous demandons depuis si longtemps.
Des propos recueillis par Svetlana Dukhovitch. Et puis le président ukrainien a d'ailleurs discuté avec Léon XIV de l'hypothèse de cesser le feu de 30 jours que Kiev et ses alliés européens, de concert avec Washington, espèrent obtenir. Une condition sine qua non avant des discussions de paix directe entre Russes et Ukrainiens. Le premier à les envisager était le président russe. Son homologue ukrainien est allé plus loin en proposant un face-à-face ce jeudi 15 mai en Turquie. Seule réponse pour l'instant de Moscou, une pluie de drones lancée la nuit dernière sur l'Ukraine. Et puis signalons cependant qu'en Turquie, un pas pour la paix a été in situ à puisque le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, a annoncé son désarmement, sa dissolution aujourd'hui, après près d'un demi-siècle de guerre contre la Turquie. Et si elle est effective, eh bien la fin de la lutte armée alimente aujourd'hui l'espoir d'une résolution pacifique de la question kurde en Turquie. Anand Lauer.
Comme attendu, le PKK annonce la fin de son existence en tant qu'organisation et la fin de la lutte armée. Le groupe proclame, je cite, « avoir accompli sa mission historique et l'entrée dans une nouvelle ère, celle de la résolution de la question kurde par la voie de la politique démocratique ». Cette décision n'est qu'une première étape d'un chemin qui s'annonce long et difficile. Le PKK affirme que la mise en œuvre de sa décision exige que le droit à la politique démocratique soit reconnu et qu'une garantie juridique solide soit mise en place. Il appelle le Parlement turc à ses responsabilités. Cette étape majeure est le résultat de plus d'un an de négociations entre l'État et Abdullah Öcalan, le fondateur emprisonné du PKK. Officiellement, les autorités turques n'ont rien promis, mais elles ont laissé entendre que la disparition effective du groupe armé ouvrirait la voie à des avancées dans des domaines qui touchent de près à la question kurde. Dans l'immédiat, cette annonce ne dit rien des modalités pratiques du désarmement et du sort des combattants du PKK, notamment de ses chefs militaires installés dans le nord de l'Irak, des points critiques qui ont, sans aucun doute, déjà été négocié entre Ankara et l'organisation. À Ankara, un endroit pour Radio Vatican.
Le pape est en dialogue avec le monde, mais il est évidemment et avant tout le pasteur de l'Église universelle et l'évêque de Rome. Léon XIV a rencontré ce matin le vicaire général de son diocèse, celui donc de la ville éternelle. La salle de presse du Saint-Siège a également confirmé la date du 18 mai pour l'inauguration de son pontificat. La célébration aura lieu à 10h, place Saint-Pierre. D'autres rendez-vous évidemment sont au programme. Une audience le 21 mai et 10 jours plus tard, on a appris ce lundi qu'il présidera une messe d'ordination sacerdotale le 31 mai dans la basilique Saint-Pierre en la fête de la visitation de la bienheureuse Vierge Marie. Hier, Léon XIV soulignait déjà combien l'Église a besoin de vocation. Mais avant cela, mercredi, le pape Léon XIV recevra des délégations d'Églises orientales dont le jubilé a débuté. Ce lundi, 5000 fidèles ont convergé vers Rome. Ce matin, une divine liturgie de rite éthiopien a eu lieu dans la basilique Saint-Pierre. De l'autre côté du Tibre, dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, une divine liturgie de rite arménien a par ailleurs été célébré à la mi-journée. Ce lundi, nous continuons de découvrir celui qui est appelé à gouverner l'Église avant de devenir Léon XIV, avant même de rejoindre la curie et d'être évêque au Pérou. Il a été le supérieur général des Augustins, une fonction qui lui a permis de visiter toutes les communautés à travers le monde. C'est lui qui a permis le retour des Augustins à Cuba en 2006. L'évêque d'Holguín se rappelle de la visite de l'alors père prévôste dans son diocèse.
En el año 2008, el hoy papa Léon XIV viajó a Cuba.
En 2008, le pape Léon XIV s'est rendu à Cuba pour visiter ses frères Augustins. Il s'est rendu à la paroisse de Puerto Padre, dans le diocèse de Holguín, à 700 km de La Havane. Le presbytère rattaché à la paroisse était en réparation et le prieur général a été hébergé dans une maison familiale pendant les 3 jours de son séjour. De là, il s'est également rendu à Holguín pour me rencontrer personnellement et connaître un peu plus la réalité de la partie orientale de l'île. Aujourd'hui, la joie de M. Manuel Miguel, qui l'a accueilli chez lui, connu de tous sous le nom de Manoline, est débordante. Il montre à tout le monde un simple diplôme que le père prévôt lui a remis pour son accueil et pour le soutien qu'il a offert aux frères de la communauté. Sans aucun doute, Léon XIV a laissé aujourd'hui une marque de simplicité, de proximité, de joie en voyant comment ses frères évangélisaient et servaient l'amour de Dieu au milieu d'une réalité si démunie. Ceux qui se souviennent de lui à Puerto Padre se souviennent de son sourire serein et paisible. Et même lorsqu'ils le voient à la télévision, ils peuvent constater, après tant d'années écoulées, qu'il a toujours le même sourire.
C'était l'évêque d'Holguín, Monseigneur Aranguren Echeverria, des propos recueillis par Alina Toufani de la rédaction hispanique de Radio Vatican. Voilà, c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du pape Léon XIV et l'actualité de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Une excellente soirée à tous.